Vous écoutez
Serial Causeur.
Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, une série sur le télétravail serait-elle une workplace comédie? En ces temps confinés, retour sur un genre à part entière avec la fin de Superstore, l'arrivée de Parks and Rec sur Prime Video et les classiques, les cultes et les oubliés du genre. Avec moi, l'employé du mois Aki.
Oui, coucou.
Le responsable RH, Maxime.
C'est pas faux.
Et le stagiaire, Stéphane.
Oh bah non, ouh, j'aime pas mon statut stagiaire.
Oh bah ça va.
C'est toujours le mec cool, le stagiaire.
Bah ouais.
Alors là.
Mais gentil, merci Maxime.
Et puis t'as des cadeaux à la fin. T'as des cadeaux à la fin de ton stage, ça va.
C'est vrai.
Bah tiens, depuis le temps, on fait un petit coucou à Marie Crumble qui nous écoute. Voilà.
Oh, bonjour Marie.
Coucou Marie Crumble.
Alors voilà, c'est fini. Après 6 saisons, Superstore tire sa révérence. Les portes du Cloud 9 se referment sur 113 épisodes. Alors ce final, Stéphane, est-ce que t'as chialé?
Oui. Tu sais que oui, si tu me poses la question. Clairement. Et pour le coup, c'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Disons qu'avec une grosse partie de la saison 6, j'en avais strictement plus rien à foutre de ce qui leur est arrivé. Le seul truc qui m'intéressait, c'était de voir comment ils géraient le Covid. Et ça, ils l'ont très bien fait. Mais j'ai été cueilli par les deux derniers épisodes. Alors le dernier, c'était la chialade. Non, c'était très bien.
Tout l'épisode
quasiment en plus, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'était complètement incontrôlable. Du début à la fin, je me suis retrouvé avec une petite larme, et puis alors à la fin, c'était un torrent.
Mais parce que c'était super bien écrit. Moi, je trouve que comme finale pour la série que c'était, c'était juste mais nickel. Il n'y avait rien en trop, c'était vraiment parfait. En plus, j'aimais pas trop l'intrigue Jonah et Amy. Enfin, je trouvais que ça traînait en longueur, donc du coup, là, de le faire revenir sur le devant de la scène, je me suis dit, ah, on va tourner autour d'eux, ça va pas être cool. Et au final, pas du tout, c'est super bien équilibré, tu comprends les personnages, enfin, le propos social, je le trouve parfait. Ces gens qui sont, qui vont être obligés de déménager, en fait, parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et j'ai trouvé ça dingue à quel point ils arrivaient à tenir leur truc jusqu'au bout. Parce que justement, je suis assez d'accord avec Stéphane quand il dit que la saison 6 c'était pas ouf, mais ils ont réussi toujours à garder ce...
Ouais, un ancrage quand même assez politique qui est assez dingue parce que c'est, comme tu disais, en effet, avec ce qui arrive là, Cloud9, ça arrive à plein d'entreprises américaines en ce moment qu'ils ont, utilisé la pandémie, pas qu'entre américaines hein, d'ailleurs, tu me diras, mais ils utilisent la pandémie pour licencier au max et s'enrichir, quoi. Donc c'est
ouais,
exactement ce qui leur arrive sur la
c'est
gueule.
C'est détestable.
L'employé du mois à qui, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Alors j'ai pleuré aussi. J'ai pas trouvé ça parfait parce que honnêtement, j'étais très lasse à la fin. Mais j'ai beaucoup apprécié le véritable épilogue de fin où on les voit un peu dans leur avenir, quoi. Et ça, franchement, je trouve que c'est un truc que je me pose souvent dans des séries à la fin des séries, que de le voir, ça m'a fait quelque chose. À la fin, pareil, quand ils regardent leurs entretiens, ça c'était trop mal fait, mais trop drôle, mais trop triste. Voilà.
C'était la dernière scène qu'ils ont tournée en plus. Donc ça... Mais c'est vrai que je pensais qu'ils allaient mettre les vrais entretiens, genre les vrais castings. Ils auraient pu
Ça aurait été compliqué quand même de mettre.
Ça aurait été compliqué, mais bon. Ouais, j'ai trouvé bien. Par contre, le problème, c'est que Amy revient dans l'avant-dernier et dans le dernier, elle revient encore et tout le monde est super surpris de la voir. Et je trouve que ça collait pas en fait. Quand t'enchaînes les deux épisodes, tu dis ouais, bon. Bah... Tu viens de la voir, donc c'est un peu...
Et justement, moi, ça m'a fait aussi me poser la question où j'ai l'impression qu'elle est partie depuis 3 épisodes, littéralement. Alors que, bon, il y en a 13, je crois, dans lesquels elle...
15 Ah oui, dans lesquels, oui, pardon.
Oui, elle apparaît dans le premier épisode. Et en fait, au final, je me dis que c'est là où le truc fonctionnait pas beaucoup. Son retour un peu événementiel, je vais vous sauver, et au final, non. Enfin, je trouve que ça marche pas parce qu'on n'a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps de nous manquer, mais, en fait.
En fait, c'est stupide. J'ai toujours pas compris pourquoi elle part. Non, en plus c'est pas vrai. Non, elle est partie. Et après, ils ont décidé que ça serait la dernière. Et c'est dommage de ne pas l'avoir décidé avant que c'était la dernière et de la garder pour les 10 épisodes qu'elle avait à tirer, quoi. Franchement, c'était un peu dommage.
Évidemment. Est-ce que je peux juste dire un truc aussi? Il y a quelque chose tout au long de la série qui m'a toujours fait poser des questions. C'est la relation Cheyenne et Beau. Mais genre vraiment, mais pourquoi il est toujours là, lui? Il est et il a résisté jusqu'à la fin, je ne comprends pas.
Il est excellent, Beau.
Mais parce qu'il en faut pour tout le monde.
Mais, c'est vrai, tout à fait.
Non, dis-toi qu'il faut soit contente parce qu'on a échappé quand même à un spin-off centré sur Cheyenne et Beau, oui. Et ça, c'est un miracle de miracle. Parce que ça aurait été invivable.
C'est là où aussi je trouve que le final il est réussi, c'est que c'est des collègues, mais c'est devenu des amis, mais ça reste quand même que des collègues. Enfin, on se doute qu'ils vont pas forcément se voir tout le temps.
Oui.
Et il te montre ça en fait, à quel point ton lieu de travail ça devient aussi ton lieu de vie, mais que les aléas de la vie font que les choses changent et c'est pas grave. Mmh. Et j'ai vraiment apprécié ce.
C'est très joliment dit dans le discours de fin aussi. Hein. Donc,
ouais. Oui,
c'est...
oui, voilà.
Bah, c'est à partir de là que j'ai eu la petite larmichette, quoi, parce que tu dis, bon, ça se termine comme ça, mais non, Garrett en met une couche, parce que ça parle aussi de la série, donc tu dis, c'est vrai que tu les as suivis pendant 6 saisons, même si c'était pas une grande série, tu t'es attaché quand même à ce rendez-vous et puis à cette ambiance-là. Mm. Et c'est vrai que c'est touchant au final. Quoi.
Mais puis, ils ont un propos qu'on voit nulle part ailleurs. Ils ont essayé dans Shameless, ça se rétame lamentablement depuis des années et des années. Enfin, pour moi, l'intérêt de Shameless n'était pas là-dedans. Et là, le propos social sur ces personnes qui n'ont pas d'argent, qui vivent au jour le jour. C'est
presque.
Ouais, presque au jour le jour, mais ils vivent pour boucler leur fin de mois. On les voit jamais, mais vraiment jamais. Ou alors ils sont installés dans un polar. Il y a toujours quelque chose d'un peu.
Oui, on les voit pas au quotidien. Ils travaillent et galèrent, quoi. Ouais.
Et là, du coup, je trouve que c'était tellement bien réussi. Enfin, rien que pour ça, je pense que cette série, elle peut rester.
C'est ça, je me demandais si ça allait être une. Parce qu'apparemment, elle est quand même très respectée aux États-Unis. Enfin, j'ai lu les papiers dessus. C'était quand même pas dithyrambique, mais quand même, il y a un profond respect pour cette série-là parce qu'elle touche vraiment un sujet, à du réel, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'en France, après, c'est pas très grave si en France, elle n'a pas un grand écho, mais pour moi, ça restera pas non plus une série très, très, très drôle, en fait.
Non.
Pas non plus réussi de bout en bout, parce que elle a eu quand même des gros moments de flottement. Elle a jamais, en fait, je sais pas sur quoi capitaliser, parce que il y avait pas non plus des gags comme dans The Office. Les personnages étaient plus ou moins inégaux quand même. Il y a pas eu non plus de grandes figures, de grandes scènes, de grands arcs, de grandes saisons, donc.
Était moyen, en fait.
C'est juste.
Je suis en train de dire.
Je sais pas, j'arrive pas non plus à la détester, quoi.
T'es resté jusqu'au bout, et ça, déjà, franchement, c'est un miracle aussi. Hein.
Elle a pas duré longtemps non plus, tu vois.
Six saisons,
c'est
déjà long.
Pas rien. Hein.
Ouais, mais 6 saisons avec 2 saisons. La saison 1 faisait 22, je sais plus.
Je crois, oui.
613 épisodes, si ça doit
être. C'est les deux dernières qui sont retrouvées courtes à cause du Covid.
5 saisons, 100 épisodes, donc c'est peut-être même plus tôt. Par contre, tu vois, dans le tout premier épisode, il faisait un peu comme Jimmy Pam avec Amy et Jonah, avec cette scène-là des étoiles dans le ciel, les choses comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a jamais retrouvé ensuite dans la série, donc ils ont pu jouer là-dessus. Et c'est vrai
ont eu raison.
Oui, et c'est vrai que Amy et Jonah, finalement, c'était pratiquement au second plan, leur relation.
Mais elle était beaucoup plus moderne aussi. Hein.
C'était jamais vraiment mis en avant, jamais lourd. Jean-Maxime, c'est vrai que quand elle revient, tu dis, ils vont jouer là-dessus, alors que on est passé à autre chose. Et ça va, ils ont quand même fait ça, je vais pas dire dans les règles de l'art, mais c'était basique, quoi. Ça va, ils en ont pas fait trop. Même si je l'aimais bien, Jonah, avec sa...
son avocate. Ouais.
C'était celle de Touche pas à mes filles, hein, ou pas C'était celle qui jouait avec Kali Kyoko, non?
Ah, possible.
Aucune idée.
On n'y croyait pas.
On n'y croyait pas.
Enfin, pour moi, on n'y croyait pas. On savait qu'Emmy allait revenir à la fin. C'était couru d'avance, surtout aussitôt après qu'elle soit partie. Mmh. On te fait un truc, il a une nouvelle relation. Tu te doutes bien que c'est pas comme ça que la série va se terminer. Mais pour le coup, ils ont réussi à la terminer aussi pas trop tard.
Ouais.
Donc,
et je pensais que ça allait quand même une fin un peu plus pessimiste, tu vois, parce qu'ils ont quand même, ça reste optimiste. C'est-à-dire que les personnages principaux ont tous une seconde chance. Enfin, chacun retrouve quasiment du taf. Je pensais vraiment que ça allait être plombant et que ça allait. Ça aurait pu rester justement dans les annales en faisant une fin vraiment pessimiste.
C'est ça. Mais j'ai lu une interview post-mortem de Justin Spitzer, le créateur de la série, et il a dit qu'il s'est beaucoup posé la question de savoir comment il allait finir la série et qu'il aurait aimé faire une fin un peu plus. Pas dark, mais un peu plus réaliste. Non, réaliste. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens qui seraient restés au chômage, il y aurait eu de la casse. Voilà quoi. Enfin, il aurait voulu rester au plus près du réel, comme on disait tout à l'heure. Sauf que il s'est dit, je vais pas pouvoir, je peux pas, je les aime beaucoup, ces personnages, et j'ai quand même envie de les voir heureux. Et je pense que le public, il m'en voudrait énormément de ne pas faire ce qu'ils attendent à la fin.
Après, il était plus showrunner depuis 2 saisons. Hein.
Non, mais il est quand même revenu et ils l'ont laissé conclure, même si...
Ah, c'est le Kevin Williamson de la Workplace Comedy. Quoi.
Ouais, mais, enfin bon, j'ai lu aussi un autre truc. En fait, on aurait pu se taper notre saison avec tout le monde dispersé dans tous les nouveaux métiers où ils faisaient. Ouais, donc, ouais. Franchement, on a évité de
pire. Ouais, non, merci.
C'était inutile, vraiment.
C'était la saison de trop.
Non, mais cette fin-là aurait pu être juste un season finale et pas un series finale. Donc, c'est ça qui est un peu ouais, vache de leur part, mais bon.
Après, je vous entendais dire que la saison 6, c'était pas terrible. Moi, je trouve qu'ils ont quand même osé faire être au plus proche du quotidien qu'on a, nous, avec les masques quasiment 50% du temps à l'écran. Enfin, ils ont tous des masques et c'est pas quelque chose qui aurait pu attirer le téléspectateur, quoi, de voir ça.
Non, mais en fait, sur ce point-là, ils ont totalement réussi la saison. C'est même une des meilleures séries qui aborde le Covid au final.
Et vous savez pourquoi? Parce que là aussi, je l'ai lu, et c'est parce qu'ils ont laissé les acteurs décider de quand est-ce qu'ils pouvaient porter le masque ou pas. Ouais. Ils ont dit, c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui balancez les phrases, vous faites au plus naturel. Si vous pensez que ça passe avec le masque, c'est vous qui êtes prioritaire, qui décidez sur le réalisateur ou sur le texte de ce qui est marqué.
Waouh.
Donc ça aussi j'ai trouvé ça bien, et c'est vrai, comme disait Maxime, ça rajoute un sentiment de réalité de ce qu'on vit tous les jours, donc ça c'est aussi, c'était vraiment bien.
Non, pour moi la saison 6 était pas très très, enfin elle était bonne, hein, mais elle était pas excellente, parce que il y avait moins de, justement, d'intrigues un peu plus intéressantes ou de choses un peu plus punchy, et c'était régulièrement des choses qu'on avait déjà vues dans les autres saisons. Donc,
mais tu regardes dans The Office aussi, hein, parce que c'était,
oui, non mais voilà,
encore une fois,
voilà, en fait on sent la saison 5 qui coupait en deux, et il fallait faire le Covid, et enfin pour moi il pouvait que s'arrêter là, on n'aurait pas pu continuer.
Ouais. Sandra était quand même un de mes personnages favoris, et sa sortie est magnifique, quoi. C'est...
Oui.
Elle était géniale.
Beau Sandra, oui.
Oui. J'espère qu'on la retrouvera, l'actrice. Alors, je sais pas comment on pourrait la retrouver, dans quelle sorte de rôle, mais c'est vrai que Sandra, c'était magique.
Ah, dans une autre comédie, en vrai, hein, disons-le.
Ouais. Mais pareil, Dina, je trouve qu'elle s'en sortait pas trop mal en manager et tout. C'était pas non plus la Dwight-like qu'on pensait au début de la série.
Ouais.
Et même Glenn Sturgis, hein, quand il est revenu en manager et choses comme ça, bon, voilà, c'était... Enfin, ils ont assez bien géré tous leurs personnages, quoi. Et même le départ d'Amy, qui, moi, m'a fait ni chaud ni froid, voilà, c'était peut-être même bénéfique, quoi, pour moi.
Il nous a fait ni chaud ni froid parce que au final, la série n'a jamais été autour d'Amy. Enfin, c'est on nous fait croire ça parce que c'est la tête connue de la série, mais en soi, ça a jamais été Amy le moteur.
Bah, c'était pas la plus drôle. Enfin, c'est.
Bah, au contraire.
Elle était comme Jonah, en fait. Elle était un peu genre toujours un peu perdue dans la situation.
Oui.
Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Et ça jouait toujours sur ça. C'est dommage. C'est dommage. Donc. Pas une grande série, mais est-ce que c'est une très bonne du genre?
Oui.
Ouais.
Correct.
Bon, moi, oui.
Moi, je suis comme acquis, je dirais plus correct qu'une bonne série du genre.
Ah, ouais. Et ça passe en France, je crois, sur NRJ 12, je crois.
C'est pas sur Comédie.
Oui. Alors, j'ai vu la version française quand ma mère zappait aux dernières vacances. C'est une horreur.
Ouais. Bah, Glenn n'a plus du tout la même voix, en plus.
C'est difficile de faire la même voix de Glenn, il faut le reconnaître.
Mais de toute façon, les sitcoms en général, les VF ne sont pas réussis.
Celle de The Middle était pas trop dégueulasse encore.
Pour moi, il y avait un truc un peu plus irrévérencieux qu'on loupait.
Ouais.
Ça, toujours. Ouais.
Bon, bah, alors passons maintenant au gros du sujet. Alors, Workplace Comedy, c'est une comédie sur le lieu de travail. C'est une définition simple, hein, d'un genre très présent dans les tops de beaucoup de monde. Mais on parlera pas des longs formats comme Zoé, comme Ally McBeal. Et puis, bah, j'allais enlever aussi 10%. Parce que c'est pas un format 20-30 minutes. Mais vous pouvez en parler si vous voulez, parce que c'est vrai qu'en France, le genre n'est pas non plus...
Si, il y a le bureau.
Alors évidemment, The Office fait partie des classiques, des cultes, mais Parks and Rec, longtemps considéré comme sa petite sœur, arrive sur Prime tout en étant timidement présent sur Salto. Alors est-ce qu'il faut regarder à qui? Et si oui, pourquoi?
Alors, en fait... Mais je pense qu'on l'a déjà dit et redit, oui, et je vais encore redire, du coup, si vous avez du mal avec la première saison, il faut s'accrocher, de toute façon, il n'y a que 6 épisodes à passer, et ensuite, ça trouve vraiment son rythme et son humour, parce que Leslie Knope, l'héroïne, est d'une d'un optimisme à toute épreuve, parce que franchement, quand on parle de rôle modèle, je comprends, enfin, pardon, c'était un peu un anglicisme ça, mais d'inspiration, etc., je pense que c'est la première femme à citer dans les personnages fictifs, parce qu'elle est incroyable, voilà. Et ça donne presque envie d'avoir foi à nouveau en logo dans le gouvernement, s'il y a vraiment des politiques comme elle. Malheureusement, la vraie vie est différente. Mais bon, ce sera, voilà, c'est le seul défaut. C'est trop surréaliste, en fait. Mais oui, tout le monde est trop bien. Et puis voilà, Ron, voilà. Je sais même plus quoi dire à propos de Parks, tellement on répète que c'est bien, quoi.
Mais en fait, écoute, c'est même pas drôle, parce que là, on va parler de Workplace Comedy, et on a clairement deux teams. T'as la team The Office d'un côté, et la team Recreation de l'autre. Toutes les autres Workplace Comedy dont on va parler, elles seront forcément en dessous.
Non, il y a Sorty Rock aussi.
Oui, mais Sorty Rock, moi, j'adore Tina Fey, et je trouve qu'en tant que scénariste, elle est meilleure que Amy Poehler d'ailleurs, mais Sorty Rock est un peu en deçà pour moi de Parks, ne serait-ce que dans l'égalité des personnages, le traitement des personnages, quoi.
Ils
sont très inégaux.
Pour Parks, est-ce que la fin est bien? Est-ce que ça a duré suffisamment longtemps?
Bah franchement, je pense que c'est la seule. Est-ce que vous en connaissez d'autres qui ont fait comme Parks
au niveau final?
Ouais, au niveau final. Donc que la série se passe post la vraie vie, en gros.
Oui,
pas New Girl.
New Girl, ils ont juste fait un saut dans le temps dans la 7e saison.
Mais ils ont rattrapé la réalité, en gros, genre comme Riverdale, quoi. C'est un peu genre ils ont rattrapé la réalité, on va dire.
Mais non, j'ai pas de souvenir. Enfin, si, t'as toujours les séries qui font leur finale en te montrant le futur, mais.
Oui, mais ça, c'est l'épilogue qui dure 3 minutes, quoi.
Oui, voilà. Oui. Non, bah, du coup, non.
Et ça, j'ai trouvé ça très original. Et qu'en plus, comme ça s'ancre dans la réalité, bah, y avait des anecdotes, des faits divers qui se sont déroulés, qu'ils ont inventés, quoi.
Ce que j'aime bien dans le final de Parks and Recreation, il me fait un peu penser en fait à celui de Superstore aussi, dans le sens où c'est pas le plus drôle. Toutes les vannes fonctionnent pas forcément. Enfin, au niveau de l'écriture comique, c'est pas celui qui m'a fait me plier en deux. Mais par contre, il y a un tel respect pour les personnages. Enfin, j'ai trouvé ça.
Sauf pour Jerry. Non, le pauvre.
Mais si, Jerry, il a sa rédemption. Il devient maire de la ville.
Ouais.
Sa rédemption de rien du tout. Ils ont été grossophobes pendant 7 ans. C'est une atrocité, enfin, bon, bref.
C'est pas d'accord, mais pour le coup, enfin, je trouve qu'ils ont vraiment respecté toutes les sorties de leurs personnages, et tu voyais qu'ils les aimaient, quoi.
Et il y a un autre truc par rapport à Jerry grossophobe, c'est que oui et non. Alors c'était vraiment le personnage, et on peut pas dire que la série elle-même est grossophobe, parce qu'à côté t'as wait, what's happening?
Qu'est-ce qui se passe?
J'ai oublié le personnage du nom de Retta.
Hein?
Oh là là.
Dana? Non, pas Dana. C'est
Donna.
Quoi le nom?
Donna.
Donna, oui, Donna, putain, pardon.
Quelle honte.
Ah là là, j'ai un trou de mémoire. Pardon. Donc oui, parce qu'à côté, après, t'as le personnage de Donna, et tu vois, il n'y a jamais de blague sur son poids ou quoi qu'est-ce, quoi.
Mais c'est parce qu'elle n'est pas grosse.
Stéphane, à un moment...
C'est toi, hein, toi et ta perception de la grossophobie.
Je ne vais pas relever, mais bon, médicalement, on va dire.
Le débat, c'était workplace comedy ou grossophobie.
Parlons
de Dietland, mince, comment elle s'appelle l'autre série qui était horrible?
Ah, non. Horrible. Qu'est-ce qui était horrible
sur Netflix? C'est forcément Netflix.
Insatiable.
Ah, la meuf qui dévore, là.
Il n'y a que Netflix pour faire un truc grossophobe en 2020.
Oui. Bien. Alors.
Voilà, la petite parenthèse.
Alors, je ne sais pas comment on va structurer ça. Est-ce qu'on parle des cultes, des classiques, des actuels, des oubliés, ou est-ce qu'on fait un pot pourri? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je fais un drop naming ou...
Parlez The Office, vu qu'on vient de parler de Parks and Rec.
Bah, The Office, on a déjà parlé beaucoup aussi, mais est-ce que c'est culte ou est-ce que c'est classique? Est-ce que c'est une classique?
Oula, alors là, il va me donner une définition de culte et classique. Hein, parce
culte, avec tous les mêmes qu'il y a, avec tout ce... Enfin, voilà, ça, tu peux parler.
Elle a les deux. Elle est classique, elle est culte.
Oui, bah, un classique, un culte est classique, mais...
Elle a c'est quand même un milestone dans l'histoire de la comédie. Enfin, très clairement, comme disait Stéphane tout à l'heure à propos de Superstore, toutes les séries qui prennent place sur un lieu de travail ont pioché à un moment ou un autre dans The Office. Même Parks and Rec, hein, c'est...
Ouais. C'est un spin-off, il ne faut pas oublier.
Voilà, oui, c'était construit comme un spin-off à la base. Et forcément, oui, c'est forcément classique parce que ça inspire encore des gens. Et pourtant, moi, je ne trouve pas que ce soit la meilleure série, mais au-delà de ça, c'est sûr que c'est la référence.
Oui.
Est-ce que Community, on peut le mettre dans une workplace comédie, dans le genre?
Ils ont travaillé à un moment ?
Non, ils ont
travaillé pour avoir leur diplôme.
Ah non, mais ils n'ont même pas travaillé pour leur diplôme, soyons réalistes. Ils avaient des devoirs, on ne les a jamais fait faire leurs devoirs. C'est un groupe de study group. Bah, j'attends toujours le study dans le groupe. Hein.
Ils travaillent dans un Subway à un moment.
Sérieux ?
C'était pour financer une saison, ça, non ?
Non, c'est possible. Donc, ouais, non, ce n'est pas une workplace comédie.
Bah, dans ce cas-là, tu dis Chuck, c'est pareil, ils travaillent tous dans le Baymore, en fait, ça parle pas
du drama, ça.
Oui, ah bon, c'était... Oui, bon, t'as raison.
Bah si, les travails sont des espions, ils travaillent, ils font leur mission, bah ils travaillent quand même.
Ah, il y a ça aussi, alors, ouais.
Bon, qu'est-ce qui fait une bonne workplace comédie ? Est-ce que c'est avant tout une série qui doit être chorale et qui doit avoir des personnages quasiment tous égaux ?
Non.
Ah, je suis pas d'accord.
Moi non plus, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec Maxime.
C'est là où c'est que je vais... Moi, je vais baser sur The Office. Bah oui, c'est ça. Plus une galerie, alors avec des tertiaires, voire même des... Non, je vais pas dire, parce qu'après, je ne sais pas le dire. Donc, des personnages tertiaires secondaires et des principaux.
Bah, moi, des tertiaires qui deviennent secondaires, quoi. Comme Superstore, comme The Office, Or Parks, je ne sais pas.
Bah si.
Oui.
Tu sais, il y en a quand même eu.
Mais Madonna, littéralement, par exemple.
Ouais. Mais Stéphane, tu penses que ça peut être genre un couple de personnages qui portent la série et derrière il y a tout un univers où faut quand même qu'il y ait quand même un petit cast de 5-6 personnes qu'on voit régulièrement pour que ça fonctionne.
Oui, bah comme dans The Office par exemple, oui. Que ce soit Creed au début, comment il s'appelle, les scénaristes, la BJ Novak, non, quoique lui il était crédité en tant que machin, Kelly, enfin Paul Lieberstein, enfin tout ça là, quoi. Enfin,
ça c'est plus de 5 ou 6, hein.
Non, mais c'est des tertiaires qui sont devenus après récurrents, alors qu'il y avait déjà ton casting récurrent avec 4 ou 5 personnages bien ancrés, quoi.
Oui, mais pour le
c'est déjà énorme, 5 ces personnages, en fait. Donc c'est déjà une série chorale. Désolé.
Oui, mais j'ai jamais dit que c'était pas que ça devait pas être chorale, quoi. Mais il y avait quand même une gradation l'importance des personnages.
Oui, évidemment. Oh.
Donc 30 Rock, on en a parlé un petit peu, mais alors pourquoi ça n'a pas c'est pas du même niveau que toutes celles qu'on a citées.
Non, déjà.
Je pense que c'est trop niche, en fait, tout simplement.
Ouais. Non, c'est trop intelligent pour beaucoup trop de monde. Et c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup marché auprès du grand public, quoi. Alors
je pense que
c'est
juste
dingue.
Sans
quoi.
Vouloir.
Alors, il n'y a rien d'élitiste là-dedans.
Il n'y aura pas de réhabilitation de 30 Rock.
Non, mais c'est très bien,
il n'y a pas besoin de la réhabiliter.
Si, il y en a qui sont juste... Alors, Superstore peut très bien exploser dans 2-3 ans, dispo sur Netflix, tout le monde regarde et tout le monde adore, et voilà.
Oui, mais ça n'empêche pas que les qualités de Superstore et de celles de 30 Rock, elles ne sont pas du tout les mêmes. Pour suivre 30 Rock, il faut quand même avoir une culture un peu plus sérielle et un peu plus télévisuelle américaine et une culture de la télévision, parce que sinon tu vas être vite perdu, quoi.
À mon sens, c'est aussi pour ça qu'en fait moi, comme je pense pas mal du public, on n'arrive pas à la ressortir, à la glorifier, ou comme on peut le faire pour Parks and Rec ou The Office. C'est parce qu'elle est tellement précise dans ses références, dans
sa grade, là, qui c'est qui mange, pardon,
que au final je pense qu'elle vieillit très mal.
Alors pour le coup, je l'ai revue récemment. Moi, je trouve qu'elle vieillit pas mal, mais elle vieillit pas mal. Elle ne vieillit pas du tout. Ouais, voilà. Sauf qu'elle est très ancrée dans son époque, et si t'as pas connu les années 2000, et ben en fait tu peux pas. Mais elle vieillit pas parce qu'elle est toujours très bien rodée, elle est toujours très bien référencée, et c'est toujours très drôle, quoi.
Oui, mais pour moi, ce qui fait une grande série, c'est aussi que pour moi, oui, j'aurais toujours du mal à considérer 30 Rock. Enfin, même j'ai revu les deux premières saisons récemment, et c'est marrant parce que justement je connais, mais je trouve que ça a pas si bien vieilli que ça.
Ah ouais.
Alors, est-ce que c'est dans les classiques ?
Non, mais c'est culte.
Juste non, culte, non.
Mais bien sûr que si, je suis désolée.
High Five Million Angels.
Voilà. Ouais, c'est culte.
Non, pardon, c'était un gift. Mais oui, mais non.
En fait, une série culte, ça n'a pas besoin d'être vue par des millions de personnes. C'est comme quand je dis que Firefly est culte et pourtant personne ne connaît, en fait.
Si,
c'est connu, c'est culte pour le fandom de la série, entre guillemets.
Bah oui, mais ça existe justement parce qu'il y a un fandom, donc c'est culte.
Oui, et 30 Rock, c'est le cas, hein, je peux te le dire.
Ah oui, et puis elle n'a pas eu des Emmy pour rien quand même. Hein.
Bah oui.
Oui, enfin bon.
Bah, alors,
VIP aussi a eu plein d'Emmy, c'est pas pour ça que c'est culte.
Ah si.
Non.
Si.
Mais si.
Bah, de toute façon, elles sont toutes cultes parce que moi je les regarde et je les adore. Donc,
on revient à ça.
Alors, si vous voulez savoir ce qui est culte, demandez à Stéphane.
C'est ça.
Ça va dire qu'NCIS, c'est culte. Alors, ça va.
Bah, c'est clair.
Non, ah, non pas, pour le coup, non. Pour,
c'est
pour
un classique, NCIS.
Non, non plus. C'est juste une très grande série, grand public, mais après, voilà.
C'est quand même un classique. Voilà. Tu peux pas faire 30 saisons sans être un classique, quoi.
Ah non, pour moi, c'est un classique.
Je pense que je suis d'accord avec la temporalité de la série. Enfin, de la série, je l'ai revue moi. Enfin, je l'ai revue. Non, pas du tout. Excusez-moi. Je l'ai vue il y a 2 ans à peu près. Il y avait beaucoup de blagues où j'étais oh mon dieu, ils ont vraiment dit ça. Donc en gros, ça passe pas toujours aujourd'hui.
Mais ça passait déjà pas mal à l'époque, hein. Donc
il y a plein de séries comme ça. Hein. Tu vois, je revois Scrubs et je me dis non, ça marche pas.
Si même toi tu le dis.
Ben oui.
Mais après ça c'est quelque chose que Tina Fey avait réussi à reprendre un petit peu, je trouve, dans ce qu'elle avait fait ensuite, Great News, qui est aussi...
Alors, parlons de Great News, justement.
C'était nul à chier, arrêtez, c'est nul.
Ah ouais, non, je suis pas d'accord. J'ai trouvé ça
vraiment bien.
Ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien aussi. Hein. J'étais déçu que ça soit annulé parce que je pensais que ça pouvait aller plus loin et être vraiment meilleur. Mais
moi, j'étais content que ce soit annulé parce que comme ça, vous étiez triste.
Alors, j'ai envie de structurer l'émission, là, maintenant.
D'accord.
On va parler que des classiques, pour l'instant.
Cliffhanger.
Est-ce que Brooklyn Nine-Nine, ça devient un classique?
Non.
Bon, oui, je pense que c'est un classique.
Ah non.
Je suis pas sûr.
C'est classique, si, quand même.
Bah,
je dirais même culte.
Attendons de voir la fin.
Ah non.
Rien que le fait d'avoir sorti la scène avec les Backstreet Boys qui a permis de faire exploser la réputation de la série et tout ça.
Non.
Ça fait partie un peu de son histoire. Et voilà.
Okay, bon.
Mais c'est vrai que je pense pas que ça reste non plus une. Ça reste classique dans le genre, mais grande série, je ne sais pas. Après, moi, j'ai arrêté rapidement parce que ça me faisait pas rire. Donc, au bout d'un moment, si une comédie me faisait pas rire, j'arrête. Mais je pense que par sa longévité, par la place qu'elle a eue, bah, voilà, par rapport à ses histoires de renouvellement et choses comme ça, je pense qu'elle fait partie des classiques.
Ce qui la permettra d'atteindre peut-être un jour ce statut-là, si encore on en reparlera dans 15 ans, mais c'est Netflix. Hein. Elle est sur Netflix et tout le monde va finir par la regarder, la re-regarder, regarder. Quoi.
Sauf si les gens trouvent ça nul et en fait ils voient ça une fois et ça suffit et ils n'aiment pas. Ça, c'est...
Bah, ouais.
Ouais, bah ça, on s'en fout parce qu'ils parleront pas.
Moi, je pense que sa longévité pourra lui porter préjudice parce que autant la saison 5 était excellente, mais vraiment c'était la meilleure saison de la série. Et depuis, ça décline lentement. Et en fait, là, on arrive à la 7, 8.
La 8, la dernière.
Et j'ai aucune envie de la regarder. Ils ont annoncé qu'ils allaient travailler autour de Black Lives Matter tout en intégrant le Covid. Et j'ai aucune envie de la regarder. C'est
en
horrible.
Plus, ils n'ont pas repoussé en plus la venue de la série. Voilà, okay.
Parce qu'ils ont tout réécrit, c'est ça qu'ils... C'est eux qui ont tout réécrit. Hein.
Tout à fait.
Oui, mais ça prouve qu'ils ne sont pas à l'aise sur leur sujet non plus.
Ah, ouais.
Mais ça veut dire qu'ils sont volontaires.
Bah, ça veut dire qu'ils vont être très attendus.
Est-ce qu'ils ne vont pas mettre quelqu'un qui
a raté? Bah, voilà.
Volontaire, pourquoi? Ils vont pas avoir de suite. Enfin, moi, je trouve pas ça. Ils auraient dû continuer ce qu'ils avaient à faire et puis il fallait pas s'emmerder. Hein. Ça n'a aucun sens. Bon.
Mais de toute façon, faut regarder tout ce que Michael Schur fait. Donc.
Oui, c'est toujours raté.
Oh. Oui. Pardon, Stéphane.
Non, mais oui, je sais. Non, mais c'était juste pour t'embêter.
C'était bien au début, mais c'est nul après, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Je peux pleurer.
C'était quoi exactement le rôle de Schur sur The Office d'ailleurs? Il était head scenarist? Enfin, head scenarist. Mon Dieu, head writer, non?
Ouais, il l'a été à un moment donné, ouais.
Et puis, bon, après, ils sont tous producteurs, donc après, il faut voir le rôle du producteur. Hein.
Oui, et puis il jouait très mal Moses.
Est-ce que Cheers est culte ou c'est un classique? Et qu'est-ce que Cheers?
Classique.
Qu'est-ce que c'est, Cheers?
Classique.
C'est quand même un culte aux États-Unis.
Ouais.
Oui. Bah, c'est
une série dans un bar. Voilà, point.
J'ai jamais vu, je voulais.
Eh bien, moi, j'en ai regardé 3 saisons et demie, 4.
C'est le Undateable de l'époque.
Oh non, même pas. Non, mais j'y suis pas arrivé. Il m'a resté 7. Il y a 11 saisons, j'y suis pas arrivé. Je n'adhère pas du tout à leur humour.
Alors.
Et c'était une catastrophe. Enfin, et pauvre Ted Danson.
Mais est-ce qu'on comprend le culte autour de Cheers?
Ah oui, 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 moi je comprends.
Ben, moi j'ai du mal.
Le classique.
Ah, alors, après, comme toutes les sitcoms, je trouve qu'elle a. Enfin, toutes les sitcoms, non. Mais elle a trop duré. Elle est beaucoup trop longue. En fait, dès le départ de. Comment ça s'appelle? Shelley Long. Enfin, l'actrice Shelley Long. Je crois que c'est à la saison 5. Ça devient chiant parce que c'est une redite. On refait exactement les mêmes choses.
C'est quoi? C'est celle qui joue Diane?
Oui.
Ouais.
Et donc, les 6 dernières saisons sont moyennes.
Et tu t'imagines, c'est la moitié de la série, oui, quand même. C'est fou. Hein.
Certes, mais au niveau des 5 premières saisons, ils ont installé tellement de choses, c'est tellement drôle tout le temps que, ouais, enfin, pour moi, c'est un classique plus que c'est culte.
J'ai l'impression que les grandes, grandes sitcoms américaines ont tous duré trop longtemps, quoi.
Oui.
Tu prends Frasier, 11 saisons, Roseanne, je ne sais pas combien, mais...
Il n'y avait pas de concurrence à l'époque.
Bah si, justement, il n'y avait quasiment que ça.
Frasier, je ne trouve pas qu'elle ait trop duré. Enfin, moi, je trouve qu'elle s'est maintenue assez souvent.
Qui a tout vu Frasier? Très peu.
Ben, moi, excuse-moi.
Je t'excuse.
Merci.
Et donc Cheers, alors, est-ce que c'était une bonne workplace comédie et pourquoi ça a marché?
En fait, je la mettrais pas dans les workplace comédies.
Ah, eh ben on passe à autre chose.
Bah juste parce que en fait la seule, il y a que deux personnes qui y bossent, c'est juste le lieu où ils se retrouvent, bon, et on parle trop... tellement.
Ils sont quand même 4 ou 5 et puis après. Cheers.
Mais c'est qu'il y a, c'est moi. J'ai réfléchi, j'ai mûri entre-temps. Depuis
il y a 3 minutes 50.
Et en fait, il y a tellement les clients prennent tellement de place, ouais, dans la série que j'ai un peu de mal à voir ça comme une workplace comedy.
Ouais. Bon, alors, dans les actuels, qu'est-ce qu'on a? Stéphane, tu veux parler de AP Bio?
Non, oui. Si, non, mais en fait, je
ne sais pas l'avoir mis dans mes...
Non, mais non, c'est toujours très bien, mais sauf qu'il n'y a personne qui la regarde à part moi, donc voilà.
Bah, mais, soit concis.
Non, mais c'est une série où c'est qu'il y a un ancien prof de philo.
Attention,
oui, c'est moi en plus.
Où c'est qui?
Oui, c'est une série où il y a un personnage qui se fait virer de son emploi de prof de philo à, je ne sais plus, je crois que c'était à Harvard, et qui se retrouve à prof de remplaçant. Et donc, il doit faire des cours de biologie, sauf qu'il ne fait pas du tout ça. Et son objectif, c'est d'utiliser ses élèves pour faire tomber son opposant prof de philo. Voilà. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très drôle, mais c'est extrêmement drôle. Mais c'est surtout... Enfin, les élèves, ils sont vraiment très, très bien. Très, très bien. Enfin, ils sont...
Et ça coche toutes les cases de la bonne workplace comedy.
En soi, est-ce que c'en est vraiment une? Je ne suis pas convaincu à 100%, mais c'est très drôle, en tout cas. Je me souviens pas de l'avoir mis dans ma liste, hein, mais ok.
Bah, si.
Si tu l'as mis.
Bah, si. Et Mythic Quest alors?
Alors franchement, moi j'aime pas en fait. J'ai tout regardé, mais j'aime pas.
Ah bon, moi aussi. Oh merci, ça me rassure.
Moi j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal, mais c'est que...
Sérieux?
Bah, c'est sympa. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas. On est d'accord, hein, sur ça. Il y a des épisodes qui sont vraiment bien construits, mais en fait. J'avais du mal pendant toute la première saison. Moi, je voyais le gars de It's Always Sunny in Philadelphia et j'arrivais pas à voir autre chose. Il est tellement débile dans cette série que là, j'arrivais pas à le trouver crédible. Pour moi, c'était le gogol de It's Always Sunny in Philadelphia.
Il n'est plus gogol en 2021, Maxime.
PMR? Non, pas PMR.
Non. Oh là là.
On va s'arrêter là.
On dit Emmanuel Macron.
Oh là là.
On accepte.
Et pour le coup, It's Always Sunny in Philadelphia, ça peut être pris comme une workplace comedy. Ils bossent tous dans un bar. Enfin, ils bossent pas, mais ils sont dans un bar en tout cas.
Mais je pense que j'ai dû. Alors autant j'ai pas regardé It's Always Sunny, mais pour Mythic Quest, genre ils sont tous insupportables. Mais tous, il y en a pas un de sympa en fait. Ils se tirent tous dans les pattes. Il y a les égos les plus grands les uns que les autres.
Ah ben, regarde pas It's Always Sunny in Philadelphia.
Hein. Ah ouais, c'est clair. Oui, pour le coup, c'est le principe.
Voilà.
Oui. Eh ben. Mr. Mayer, on a déjà parlé, mais Stéphane, est-ce que ça reste du niveau des premiers épisodes?
Non.
Est-ce que c'est un sous Spin City?
Non plus, parce que Spin City, c'était intéressant quand même. Là, ça ne l'est pas du tout. Non, en fait, c'est raté. Je n'ai toujours pas compris pourquoi NBC l'a renouvelé pour une saison 2, mais il y aura une saison 2. Et il y a eu 2 épisodes sur les 10, où on a senti la patte Tina Fey, où il y avait un propos, un peu, mais c'est juste nul, quoi. C'est pas drôle et ça sert à rien, quoi. Bon, ça sert strictement à rien.
Et du coup, Spin City, est-ce que c'était bien?
C'était vraiment très très bien. Même avec le départ de Michael J. Fox et l'arrivée de Charlie Sheen, c'était très 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 bien, Spin City. C'est à voir. Hein.
Et en tant que workplace comedy, est-ce que ça rentre dans le genre?
Oui.
Clairement, mais le problème, c'est qu'elle est visible nulle part et qu'elle va finir par disparaître de la circulation dans l'esprit des gens, quoi.
Mm. Et pourtant, elle avait un petit culte.
Ah oui.
On parle de quoi déjà?
Spin City. Alors, moi, je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser aux séries, à lire Série Mag. À regarder sur internet, tout ça, Elle revenait souvent dans les meilleures séries à voir, ouais. Enfin, surtout si tu t'intéresses un peu à la politique, à la workplace comedy, enfin voilà. Elle revenait assez souvent, et en fait, maintenant, elle est passée à la trappe. Parce que, je sais pas, elle a pas atteint Twitter, donc plus personne veut la recommander.
Mais c'est, en fait, elle arrive, elle a bénéficié quand même d'une rediffusion en clair tous les étés, plus ou moins sur Canal+. Mmh. Et
France 2 aussi l'a fait, elle avait diffusé. France 2, oui. Comme une fille à scandale en même temps, c'était.
Bah, moi, je regardais sur Canaplis en clair après le repas, quand j'ai avant d'aller retourner sur la plage. Donc voilà. Mais après, depuis, comme il dit Maxime, c'était ça remonte à déjà au moins une quinzaine d'années. Il n'y avait pas Twitter depuis, il y a les plateformes et depuis elle a disparu.
Bah, c'est comme voilà, c'est comme une fille à scandale. C'est comme toutes les sitcoms de l'époque. Hein, c'est.
C'est vrai que les sitcoms de l'époque.
Caroline in the City, Les Dessous de Véronica, tout ça.
Non, c'est vrai.
Bah, en fait, toutes les sitcoms entre Friends et The Office sont toutes passées à la trappe.
Ouais, j'ai l'impression. Ouais.
Bah non, il y a Seinfeld.
Donc toutes les sitcoms
et William Friends.
Ok, d'accord.
C'est vrai qu'il y en a très peu qui ont vraiment franchi l'Atlantique pour vraiment s'imposer. Quoi.
Non, elles sont arrivées chez nous, sauf qu'elles ont été diffusées. Non, mais elles ont été diffusées n'importe comment aussi. Donc, vraiment,
oui, mais en soi, pour Seinfeld, c'est pas grave.
Non, ça c'est vache.
Mais c'est vrai que ça marche toujours moins. J'ai l'impression. Bah, j'ai plein de potes, quand ils me demandent des conseils de séries, par exemple, ils disent mais pas de comédie, hein, ça me fait jamais rire. Déjà, je fais oh là là, ok.
Ah, peut-être qu'aussi, ça a été mal traduit quand c'est passé en France.
Possible.
Et que ça n'a pas réussi à s'imposer.
Ah, je viens de penser, en culte, il y a quand même The IT Crowd.
Oui, côté UK.
Ah, c'est vrai? Ah oui,
alors j'ai regardé au moins 3 fois le pilote, j'y arrive pas.
Oui, il faut
que c'est une grosse référence. Hein, c'est quand Big Bang Theory avait commencé à cartonner, tout le monde disait oui, c'est IT Crowd au moins bien.
Bah, clairement.
Bah, alors, c'est assez différent en vrai. Mais...
oui, bah oui.
Mais c'est parce que c'était la seule fois qu'on revoyait des geeks dans une série en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait le rapprochement avec The IT Crowd.
Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas duré très longtemps, IT Crowd.
4 saisons.
Non, 3 saisons.
4 saisons, 4 petites saisons de. 6 épisodes ou 8, je ne sais plus. Mais
après, ils avaient fait un spécial.
Si vous me permettez, on peut parler des oubliés.
Allez, vas-y.
Alors, j'en ai noté 3, mais après, si vous en avez d'autres. On commence avec Great News. Qu'est-ce que c'était à qui ?
On en a parlé il y a 3 minutes, quoi.
Oui.
Bah, justement, c'était donc une workplace comedy produite par Tina Fey et son partenaire, là, Carlock.
Robert Carlock.
Merci.
Oh là là.
J'ai du mal avec les noms aujourd'hui.
SNL, quoi. Enfin, pendant au moins 40 ans.
Mais oui, bon. Mais j'ai un trou de mémoire, là, d'accord. Du coup, ça se passe dans une société, dans une...
Oh là là, une chaîne. Ah ouais.
Mais on comprend pourquoi on l'a oublié. Hein.
Dans une chaîne, oui, c'est ça. Bref, le plot twist, c'est qu'en gros, donc il y a une journaliste sur cette chaîne.
Ah, j'aime pas l'actrice.
Dont la mère va être embauchée comme stagiaire. Et c'est là où il y a petit conflit, petit moment un petit peu rigolo et plus.
Et grosse gênance.
T'aimes pas Briga Hélène, Stéphane ?
Non.
Arrête.
Même là, dans la série où c'est qu'elle est...
Où c'est qu'elle est.
Il faut que j'arrête. Maintenant que tu me l'as dit, je l'entends tout le temps. Bi positive, et bien en fait, elle me saoule.
Mais elle était très bien dans Ground Floor.
Franchement, je l'avais bien aimée dans Ground Floor aussi, mais surtout dans Great News, elle était très bien aussi.
Mais Stéphane, dans Bi positive, elle a même pas un rôle de...
Tertiaire.
Ground Floor, qui était aussi une workplace comedy, soit
mais oui, mais oui, mais c'était bien Ground Floor, ça a duré quoi, 2 saisons. C'était
deux
avec
saisons.
Notre amie
Skylar Astin.
C'était un peu. Non, c'était.
C'est pour
frais,
ça que ça chante pendant un épisode, même.
Ouais, voire un épisode et demi, parce que t'as l'autre qui arrive aussi, là, celle de.
Bah, sa femme de l'époque, son ex. Aujourd'hui.
Celle de Pitch Perfect, là, comment ça s'appelle ?
Anna Kemp.
Anna Kemp, voilà. Et il y avait Dr. Cox de Scrubs dedans.
Ah oui, le patron. C'était...
Bon, Ground Floor, pareil, hein, c'est invisible, toutes les plateformes. Mais bon, c'est normal, c'est quand même sur une petite chaîne. C'était pas non plus. C'est dommage, parce que le casting était quand même intéressant. Mais c'était frais, voilà. C'était pas drôle, mais c'était frais.
Mais Great News, honnêtement, je trouvais que c'était plutôt, entre guillemets, pertinent sur tout, en fait, sur la société. Et bon, sur les news un peu moins, mais sur la société, je trouvais ça super pertinent. Et les personnages étaient vraiment drôles. Et puis, il y avait quand même Nicole Richie. Et je la trouvais trop drôle dedans parce qu'elle jouait elle en fait, mais en oui, voilà.
Et c'est dispo sur Netflix,
sans déconner. Ah ouais.
Et il y avait Great Indoors aussi qui était venu, je crois que
c'était nul ça.
Ouais, avec Joel McHale de Community, et c'était dans un journal, je crois. Mais ça faisait quand même très, enfin, par rapport à The Office, bon, qui sont pas vraiment, enfin, c'est encore deux types de comédie, parce que là, on est vraiment dans la pure sitcom, quoi. Et c'est vraiment les mécaniques des sitcoms, donc c'est vraiment, enfin, faut que ça fonctionne tout de suite. Et Ground Floor, Great News et Great Outdoors, ça joue sur les mêmes ressorts, quoi. Donc c'est
une orchestre
comédie, oui, mais voilà, c'est trois héros, quatre sidekicks, le grand patron, et puis voilà, quoi, c'est pas...
Mais en fait, Joel McHale, je le trouve pas drôle, déjà, et non. Je comprends pas comment les gens le trouvent drôle.
Bah, il se croit... Enfin,
c'est ça le truc, exactement, il pense qu'il est drôle, mais pas
en position de drôle, ouais.
Mais j'ai gros souci avec ce type de personnage, quoi. Voilà. Et il fait toujours la même chose, en fait, le mec un peu ouais. Qui s'en fout de tout, et donc du coup qui est drôle, mais en fait pas du tout. Ouais. Parce que dans Great Indoors, c'est le même personnage que...
Dans Community, ouais. N'est-ce pas ?
Attends, je viens de penser à Outsourced.
Ah, mais
bien
ça aussi, très déçu, j'aimais bien Outsourced.
Oui, avec Ben Rappaport, ouais, c'était bien.
Alors, c'est le bon Rappaport ou c'est le mauvais Rappaport ?
Non, c'est le bon. Enfin, c'est pas Michael, quoi. Non, c'est un mec qui était envoyé en Inde pour gérer un service de...
De téléphonie, enfin de...
Oui,
voilà, service c'est client.
Un service client au téléphone, ouais. Mmh. Donc, c'était un chouïa raciste, mais...
Un gros chouïa, quoi.
Voilà. Mais sinon, les acteurs indiens étaient vraiment très, très bien. D'ailleurs, ils sont un peu partout. On les voit partout en ce moment.
Bah, il y en a trois d'acteurs indiens, donc c'est toujours eux, quoi.
Non, c'est plus que
ça. Racistes, ils sont très bien.
Non, la série a un humour
repas. Oui, je sais. Bon, parle-nous de Better Off Ted.
Oh.
Qui, moi ?
Bah oui, parce que c'était pas mal quand même.
Ah, c'est
très bien.
C'est très bien. C'est dommage qu'elle soit oubliée, celle-ci. C'est sur un...
Un département de recherche Veridian.
Ouais, de R&D
d'une filiale de Massive Dynamics, hein, de Fring.
C'était tellement drôle.
Qui font des expériences et des produits un peu complètement cons. Mais c'était vraiment très très drôle. Fresco, le créateur, oui, c'est Victor Fresco, si je ne me trompe pas. Et non, c'était vraiment très très bien pensé. C'était une critique très acerbe quand même de l'entreprise américaine. Quoi.
Ouais.
Mais de la grande entreprise américaine.
Mais tu avais un rythme fou quand même. Hein. Ça allait très très vite. Hein.
Il y avait
des gags toutes les 10 secondes. C'était un truc de barjo.
Mais créativement, c'était ouf, quoi. Enfin, je veux dire,
ouais, les pubs,
c'était original. Les pubs, exactement.
Les fausses pubs, elles sont tellement drôles.
C'est vrai. Et Portia de Rossi était très bien.
Mais ils étaient tous bien, en vrai. Même Jay Harrington, que je trouve qu'il sert à rien en général, il était bien.
Non, mais il faisait le rôle du mec. Non, s'il était bien, ça va. Tiens, ça me rappelle Powerless. Non, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle Powerless. Mais... Ah, bah, je crois qu'il y a des acteurs dedans. Non, pas du tout.
Non, c'est parce qu'en fait, c'est plus ou moins un développement de R&D, mais pour les gens sans pouvoir.
Oui,
c'était avec Vanessa Hudgens, là.
Oui, Danny Pudi, Alan Tudyk, Ron Funchy.
C'était du DC Comics sans héros.
Ouais. Moi, ça a mis longtemps à être bien.
Non, mais avec 12 épisodes, comment ça peut mettre longtemps à être bien?
Eh bien, les trois derniers non diffusés étaient très drôles.
Ah.
Bah, c'est dommage. Mais oui, ça a joué sur tout l'univers DC Comics et tout, mais c'est vrai.
Je suis étonnée que ça n'avait pas marché d'ailleurs, parce que le timing était très bon.
Bah,
que
ouais.
C'est vraiment que c'était nul en fait.
Oui.
Bon, nul.
Aussi.
Bah, c'est pareil, le rythme était très soutenu et faut que ça marche, quoi. Des fois, les workplace comédies, il faut qu'ils trouvent vraiment un rythme de. Quand je dis un rythme, c'est pas créativement, mais c'est vraiment un rythme de blague et tout ça, de dialogue, quoi. Tu vois, c'est pas du tout la même chose que Ground Floor et The Office, quoi. C'est pas du tout le même timing. Et après, c'est vrai que pour comprendre les blagues et tout, même si ça va très vite. Des fois, tu peux trouver ça très bien sans comprendre la moitié des choses.
Mais pour le coup, Powerless, le concept était tellement fort au départ que c'est vraiment dommage qu'ils n'aient rien tiré.
C'est vrai, ouais. Bah, peut-être qu'ils étaient coincés. En même temps, ils avaient un fort potentiel, mais ils étaient coincés par ce potentiel-là aussi.
Disons que moi, contrairement à qui, je ne suis pas d'accord, elle est tombée au mauvais moment. Si elle sortait aujourd'hui, je pense qu'elle aurait peut-être un peu plus de résonance. Mais bon, après...
Bah, pourquoi tu penses ça ?
Parce qu'elle est... je sais pas...
Oui, c'était noyé dans le flot super-héros, et là, vu que c'est un peu plus calme.
Ah ben non, bah, au contraire.
Il y a aussi tout ce truc où, en fait, on a fait tellement de séries de super-héros et de films de super-héros, enfin, ou autour des super-héros, que là, d'assurer un peu le service après-vente, c'est un peu ce qu'on nous vend, en fait, au niveau de ce genre de série. Donc peut-être qu'elle aurait eu plus de succès.
Et ouais, mais en fait, il n'y a pas de super-héros dedans, donc en fait, les gens, ils seraient partis, quoi qu'il en soit, donc voilà.
Pourtant, le casting était plutôt pas mal, quoi.
Ah oui.
Oui.
Mais c'était peut-être mal
choré. C'est malin, hein. Oui, voilà, mais c'était
Mal. C'est Ben Quinn. Qui c'est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, il a fait A to Z, donc qui a été annulé.
Ah,
il a fait Drive aussi, qui a été annulé.
Drive, laquelle? La Drive avec Nathan Fillion?
Oui.
C'est pas Tim Minier, Drive avec Nathan
Fillion? Si, alors si, c'est, il était, je crois, co oui, c'est ça, co-creator.
Co-creator, ça veut dire co-créateur, Stéphane.
Non, mais... Oh là là.
Ouais, ça va. Dans les méconnus, j'avais mis Corporate.
Ouais.
Oui, ça, je connaissais pas. Je vous en avais parlé.
Qui a vu et qui veut en parler? Et est-ce que c'est bien? Et pourquoi?
Maxime, tu as vu? Parce que moi, j'ai très vite abandonné parce que j'adhérais pas du tout.
Oui, moi, j'ai vu les trois saisons. Du coup, c'est l'histoire de deux collègues qui sont dans une entreprise. On sait pas vraiment ce qu'ils font. Alors, j'ai jamais
C'est un peu à la Better of Ted, tu vois. C'est une grande entreprise. En fait, ils font des trucs chelous, mais voilà quoi.
Mais en plus, il y a pas autant de comment dire. Si, il y a de la folie, mais c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus triste. Et en soi, ils voulaient dire des choses sur un peu les bullshit jobs, tous ces gens qui font des burn-out, mais qui restent parce que, en fait, il faut rembourser ton crédit et tu touches des sous, voilà, enfin, ces gens-là. Mais au-delà de la première saison qui est géniale, mais vraiment très très drôle, le reste en fait ça faisait que des redites. Ils faisaient tout le temps la même saison et au bout d'un moment je me suis dit ouais, ils font bien d'arrêter parce que ça devient plus drôle en fait, il n'y a plus l'effet de surprise. Donc que ce soit méconnu, ça ne m'étonne pas et ça ne mérite pas non plus, c'est pas une grande série.
D'accord. Eh ben, Two Broke Girls, est-ce qu'on met dans les workplaces que...
Bah non.
Bah si.
Elles travaillent.
Elles travaillent, mais ça se passe pas du tout sur leur workplace en fait. Enfin, genre un moment si, mais pas tout.
Mais c'est tout le temps. Elles travaillent deux jobs dans la même boîte au bout d'un...
On les voit souvent chez elles quand même.
Elles ont le droit d'avoir une vie intime, non?
Elles rentrent dormir en fait.
Ah ouais?
Oui, c'est tout.
Et s'envoyer en l'air.
C'est vrai.
Et nourrir Chestnut.
Bah, j'allais dire, sinon on ne verrait pas Chestnut.
Stéphane, c'est toi qui regardes Just Shoot Me?
Non.
Non, bah qui regarde, voilà, je ne sais plus.
Je ne sais pas, mais j'en ai entendu parler là récemment sur Twitter. Mais avec George Segal, avec la mort de George Segal, non?
Je ne sais pas. Possible. Ah non, tu regardais News Radio.
Ah, News Radio, oui. Ouais. Oui.
Je confonds les deux, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas non plus. C'est une vieille comédie aussi.
Dans une radio, évidemment.
Sur une radio à New York, une radio locale. Et c'était très bien pendant les trois premières saisons. Et puis après, au départ de certains personnages et à la mort d'un acteur entre la saison 4 et 5, c'est devenu le grand n'importe quoi. C'était une souffrance de terminer. Ça m'a fait très mal au cœur parce que c'était vraiment très, très drôle pendant trois saisons. C'était vraiment, vraiment complètement perché. Ils savaient qu'ils étaient regardés par une personne. Donc, ils se lâchaient au niveau scénario. Ils travaillaient pas, quoi. Enfin, les gens, ils étaient là, ils faisaient des conneries. C'était vraiment très très drôle, mais ça s'est fini dans la douleur. Enfin, j'ai fini watch dans la douleur. C'était non, mais c'était vraiment intéressant. C'était avec une Maura Tierney qui était toute jeune avant de passer dans Urgence, et c'était vraiment sympa.
D'accord. Côté français, donc on avait parlé 10%, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment un format.
Les bleus.
Il y avait, je pensais à Caméra Café, mais en short-com. Mais sinon, c'est vrai qu'en WordPress, t'avais Le Bureau qui était l'adaptation française de The Office.
Et Off-Prime, ça compte?
C'est vrai, Off-Prime.
Off-Prime, c'est que autour de Virginie Efira.
C'est le travail de Virginie Efira et des gens qui sont avec elle qui la soutiennent.
Oui.
T'avais Eva Mag?
Je sais pas ce que c'est.
C'est avec Chantal Lobby.
Oh là là.
Eh ben oui.
Bah, désolé, je suis des années 90.
Non, mais c'est vrai en termes de... Mais de toute façon, nous, on avait des problèmes au niveau de genre. Alors,
Après, ça, si c'est pour être trop social et plomber le truc, pas la peine non plus.
Ah, et on peut compter la faute à Rousseau, alors. C'est Workplace Comedy. Mais c'est comme Happy Bayou, en fait. C'est un prof qui enseigne à des élèves. Donc, voilà.
Alors, tu prends Sam.
Eh ben, aussi.
Non, mais là, on élargit trop le... Alors, peut-être que, pour essayer de vraiment définir la workplace comédie, parce que là, on part quand même dans des choses un peu très larges. Est-ce que, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une définition de la workplace comédie, quoi? Parce que, comme on dit, The Office, OK, et Parks, c'est peut-être... c'est vraiment la workplace comédie, mais quand on parle de Scrubs ou de Better of Ted ou d'autres choses, de Two Broke Girls, on dit, c'est pas vraiment une workplace comédie, quoi.
Oui, mais
en fait, je pense que c'est l'effet de groupe, vous avez raison, parce que Two Broke Girls, par exemple, j'ai du mal à dire que c'est workplace comedy, parce qu'on se concentre vraiment que sur elles deux.
Ouais. Et c'est là que Scrubs peut être une workplace comedy, parce qu'il y a quand même assez de personnages pour en faire quelque chose d'un peu plus chorale, quoi. Même si ça tourne autour de deux, voire quatre personnages, je dirais trois, parce que bon, Carla n'est pas non plus.
Après,
ouais.
Non, je veux dire, après, je pense que Scrubs a moins surfé sur la vague workplace comedy que sur la vague série médicale. Dans le sens où ils se sont dit, ça n'a jamais été fait de cette manière-là, on y va. Et oui. En fait, ça se transforme en workplace comedy. Mais pour moi, en fait, la définition de workplace comedy vient de The Office et il n'y a que Parks and Recreation qui a réussi à l'appliquer à sa sauce, mais parce qu'en fait, ils sont un peu faits du même moule. Et après, ils se sont dit, on est obligé de s'en démarquer, en fait. Sinon, on aura juste l'impression de refaire la même chose. La preuve, on voit bien que toutes les workplace comédies qu'on a considérées ont soit un peu de Parks and Rec, soit un peu de The Office.
Et c'est super, comme Superstore au final.
Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, en fait, ouais, il y a une définition, mais maintenant, ils ne peuvent plus la faire.
C'est vrai que c'est tous des enfants, un peu comme Brooklyn Nine-Nine, c'est tous des enfants de The Office. Ouais, c'est vrai. Bah, tu me diras, après, ils viennent tous de The Office aussi. Hein.
Oui, non, mais c'est ça. C'est ce qu'ils disaient, ouais, clairement. Ouais.
Ça a fait des bébés.
Parce que Superstore, si c'était pas caméra, si Superstore avait fait une caméra à l'épaule, ça aurait ressemblé.
Non, mais en même temps, Justin Fitzer, il était scénariste sur The Office. Quoi.
Bah, enfin, oui, tout à fait.
Tu dis caméra à l'épaule, mais franchement, là, les deux derniers, ils étaient tellement branlants que je me suis dit, punaise, le mec qui filme a le Covid ou quoi. Franchement, j'étais waouh, calmons-nous. Mais si, ah non, mais c'était pas une blague.
Toujours
en fait.
Dans l'excès. Oh là là, toujours dans l'excès.
On non, va dire mais... que c'est une blague. Tu t'en sortirais mieux si c'était une blague ratée à qui.
Ok, voilà.
Est-ce qu'il y a un univers qui pourrait donner une bonne série dans la workplace comedy? Cela, supermarché, c'était quand même le truc à faire. Donc ça,
en vrai, je pense que Mad Men en comique, ça serait pas mal.
Ouais.
Bah, ça existait.
Crazy Ones.
Voilà, c'est ça.
Ah ouais, mais.
Qui était pas mal. Enfin, moi, ça avait trouvé son rythme et tout.
Non, Sarah Michel était mauvaise.
C'était un peu nul.
Ouais, bah, est-ce qu'elle a déjà été bonne?
Non.
Voilà.
Pour moi, en ce moment, là où tu peux aller piocher parce que c'est drôle, c'est...
La politique.
Oui, la politique, comme ce qu'a fait Parlement, qui était un peu une workplace comédie.
Oui, c'est vrai. Bien vu.
Et c'est là où je trouve que tu as les trucs les plus drôles parce que...
Il ne faut pas éviter de se faire bouffer comme VIP et se faire rattraper par la réalité. Et au moment où elle s'est fait rattraper par la réalité, elle est devenue beaucoup moins pertinente et beaucoup moins drôle aussi. Hein.
Bah, l'humour politique, c'est quand même très facile au final. Enfin,
non. Ah, non, 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 non. Ah, bah, non bah, là,
l'humour, on va dire, l'humour bas de gamme est très facile en politique. Quoi.
C'est ouais, mais enfin, facilement. C'est pas...
Oui, mais ça marche pas.
Oui.
Alors que Parlement et VIP, ça marche à plein régime parce que c'est pas de l'humour bas de gamme, au contraire.
Puis Parlement, en fait, c'est parce qu'ils ont pris aussi des partis pris dans l'écriture et dans l'endroit où ils voulaient placer leurs personnages qui sont drôles de base. Enfin, mettre ce pauvre petit stagiaire qui sait pas ce qu'il fout là au Parlement européen et lui faire faire des lois sur les requins, c'est en soi tellement absurde qu'il montre l'absurdité de la politique en général. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, ne serait-ce que de placer un personnage dans un ministère, ne serait-ce qu'en gestion de Covid, je pense que t'as moyen de faire des trucs très, très drôles. Genre, ministère de la Culture sous Roselyne Bachelot.
Allez. Oh là là. Ça serait tellement déprimant, en fait, genre... changer d'avis les 3 secondes.
Annuler les réunions sans le prévenir.
Ouais, c'est ça.
Bah, ça fait déjà 2 épisodes. Allez.
Ouais, c'est vrai.
Bon, bah, très bien. Stéphane, merci.
Et c'est avec plaisir, toujours.
Maxime, merci.
Mais de rien.
On poursuit ton stage, Stéphane.
Ah, enfin.
Mais tu seras payé 300 euros.
Ah ben, ça fait plus de 2 mois, donc je suis preneur.
T'as des tickets resto,
Oui, et puis tout est fermé, donc...
C'est dommage.
À qui tu seras pas,
okay.
Tu seras pas trop l'employé du mois prochain, mais ça
mince
va.
Alors.
Sinon, on voulait lancer une FAQ, une foire aux questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous mettez sur Twitter, soit vous répondez à nos posts, soit vous nous envoyez un mail sur Facebook, quoi que vous voulez, où que vous voulez, Twitter, Instagram, n'importe où. Posez les questions, même savoir pourquoi Marina est partie, pourquoi Stéphane est le plus grand,
ça, c'est
pourquoi le micro d'Aki est comme ça, voilà, plein de questions sans réponse. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci.
Sarah le Causeur partout, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Prenez soin de vous et de vos séries. À bientôt.
Bye.